Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, et c'est le vôtre aussi, je crois. Alors ce matin, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Le Saint-Esprit n'est pas divisé. Avant de partir, j'avais à cœur de vous lire des passages de l'Apocalypse qui glorifiaient Dieu, comme le firent les quatre êtres vivants et les 24 vieillards, où il disait ceci, dans Apocalypse 5, 9, ils chantaient un cantique nouveau, ils avaient des harpes à la main, des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints, et ils disaient ceci, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et au verset 12, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et il est dit au verset suivant, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et nous on veut ajouter, Amen. Seigneur, tu es digne. Tu es digne de recevoir la louange. Il n'y a pas de plus beau que le Fils de l'homme. Et si vous relisez Apocalypse 7, vous verrez la suite. Il y a tout un tas de louanges qui sont adressées à Dieu. Et moi ce matin, je voudrais lui adresser, dire ce culte t'est dédié, Seigneur. Nos cœurs se tournent vers toi, mais nous sommes là pour te dire que nous t'aimons, mais que tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et ça, c'est la deuxième porte, c'est décembre 2. J'ouvre maintenant décembre 3. Et je voudrais vous laisser ce passage simplement comme cadeau pour ce matin. Ésaïe 66, verset 2. « Voici sur qui je porterai mes regards, dit le Seigneur. Sur celui, celle qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui ou celle qui craint ma parole. » Vous prenez ça comme un cadeau ce matin? Moi je vous le donne comme cadeau. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Alors merci Seigneur de ce que ce matin tu es vivant. Et en regardant l'Église aujourd'hui, on peut se dire Seigneur, où sont les miracles qui accompagnaient ta parole? Où sont les prodiges? Où sont les signes? C'est vrai que le Seigneur bénit, c'est vrai que le Seigneur encourage, c'est vrai que le Seigneur fait des miracles sur cette terre, et tous les jours il y en a. On a entendu tout à l'heure le récit de miracles qui se passaient dans la bande de Gaza. Le Seigneur est vivant, et il ne change pas. Mais nous voulons dire, Seigneur, nous voulons que ton Église ne soit pas cloîtrée, enfermée sur elle-même, mais nous voulons qu'elle déborde hors de ses murs, et que la ville, que la région, que le pays connaisse que tu es le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu qui accompagne chacun de sa présence par ton Saint-Esprit, et que tu es aussi celui qui revient bientôt. Nous voulons dire ce matin, notre Seigneur est vivant. Il a des yeux pour voir, il a des oreilles pour entendre, il a des mains pour bénir, et il veut agir en se présentant à nous et en marchant devant nous, en ouvrant le chemin. Alors ce matin, je voudrais simplement vous rappeler ce passage de Exode 3, je vais simplement le commenter. Vous rappelez quand Moïse était là pour garder son troupeau, et tout à coup il voit un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Exode 3. Et là, par curiosité, je dis bien par curiosité, alors qu'il était affairé à garder son troupeau, il s'approche, et tout à coup il y a une voix qui sort de ce buisson, et cette voix lui dit, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte, est un lieu saint. Et c'est ce qu'il fit, il définit ses souliers, et Dieu a fait entendre sa voix, et je souhaite que nos églises deviennent ce buisson ardent, qui brûle, mais qui ne se consume pas, un buisson duquel sort la voix de Dieu pour toucher les perdus, pour toucher ceux qui entreront dans cette salle, mais tous ceux qui habitent aujourd'hui dans des maisons autour de nous, mais qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas son amour, qui ne connaissent pas sa puissance. Et Dieu lui dit à Moïse, il lui dit trois choses. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, c'est-à-dire qui est en esclavage. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et troisième chose, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un pays vaste, beau, bon, dans lequel coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, c'est-à-dire les ennemis, les Éthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont montés jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, Moïse, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et on dit amen à la parole de Dieu. J'ai envie de dire, Seigneur, fais ceci aujourd'hui. Libère ton peuple. Libère ce peuple que tu as élu, que tu as choisi. Libère-le de l'esclavage, de la méchanceté de tous ceux qui, ces nations qui l'entourent. Mais nous bénissons ces nations, car nous savons que Dieu œuvre aussi dans le cœur des ennemis d'Israël. Et qu'ils se révèlent à leur cœur par des rêves, par des visions, par des signes, des prodiges, des miracles. Dieu est un Dieu de lumière. Et quand la lumière de Dieu est là, les ténèbres s'enfuient. Et nous disons, Seigneur, bénis les ennemis d'Israël. Bénis Israël, mais bénis ceux qui le contrent et qui te rencontrent et qui plient le genou devant toi en reconnaissant que tu es Dieu à la surface de la terre. Alors le message d'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui peut-être va vous hérisser quand je vais vous le dire, mais c'est le mot foi. Je veux vous parler de la foi aujourd'hui. Le mot foi. Pourquoi je dis qu'il va peut-être vous hérisser? Parce que parfois des gens ont du mal avec ce message de la foi, parce que c'est à cause de la manière culpabilisatrice ou culpabilisante, comme vous voulez, à laquelle certains ont annoncé ce message, ce sujet à une certaine époque. Par exemple, on a entendu dire « tu n'es pas guéri », peut-être parce que tu n'as pas de foi. Un jour, on a entendu un prédicateur dire à Mathée, elle priait pour qu'on ait un enfant, on n'avait pas encore d'enfant, et ce prédicateur lui a dit « je t'impose les mains au nom de Jésus, si dans un an tu n'as pas d'enfant, c'est que tu n'as pas de foi ». Vous voyez un peu dans quoi on peut être embarqué par des choses stupides. J'ai une plus belle voiture que toi, ça prouve que j'ai peut-être plus de foi que toi. Et dans toute vérité, celle de la foi, elle a été tellement galvaudée, mes amis, à l'extrême. Et résultat, beaucoup sont là, résistent, ils hérissent leur poil à l'écoute du mot simplement foi. Quand ils entendent des expressions, écoutez ces expressions. Il faut mettre sa foi en action. Oui, mais comment ? Ou alors, il faut avoir la foi. Ou alors, c'est par la foi que. Il faut développer sa foi, et je dirais, etc., etc. Certains ont reçu des enseignements, tellement d'enseignements là-dessus, peut-être aussi des méthodes permettant d'obtenir tout ce que l'on veut. Vous savez, cette foi-méthode, quand vous lisez Internet, vous s'en êtes truffé de ça. Moi, quand je lis des messages comme « Aujourd'hui, tu seras béni si tu mets Amen », franchement, c'est complètement idiot, ce genre de choses. Et pourtant, on le voit tous les jours. Et à force de cela, les gens lisent cela, et leur foi, elle est comme usée. Et les gens ne mettent plus leur confiance dans le secret de la parole de Dieu, parce qu'ils disent « Mais on a essayé des trucs et ça ne marche pas ». Vous savez, un peu la foi méthode, ça a pris le pas sur la relation avec Dieu. Néanmoins, ça ne remet pas en question le fondement biblique qu'est la foi. Elle n'est pas une vérité parmi tant d'autres. Elle est un ingrédient indispensable de notre salut et dans notre marche de chrétien. Alors, sans la foi, dit la Bible, il est impossible d'être agréable à Dieu, de plaire à Dieu. Et il est dit que le juste vivra par la foi, où le juste vivra par sa foi. On trouve ça dans Habacuc chapitre 2 verset 4 ou Hébreux 10 38. Il y a une version que j'avais lue un jour, mon juste vivra de sa foi. J'aime bien celle-là. Bon, je fais pas une préférence, hein. De toute façon, il est question de vivre par la foi, et ça signifie que la qualité de ma vie va dépendre et correspondre à la qualité de ma foi. Alors la foi, c'est donc un facteur pour nous indispensable qui permet à l'onction de Dieu qui est en nous, qui est sur nous, d'être agissante. Et moi, je veux voir un Jésus présent au milieu de nous, mais présent en nous, je veux le voir agir. Et je prie pour que l'église Josué entre dans une dimension qu'elle n'a jamais connue jusqu'à ce jour. Dans le domaine des signes, des prodiges, des miracles, parce que vous savez, la renommée de Jésus s'est faite parce que beaucoup de gens étaient transformés. Beaucoup de gens étaient guéris. Beaucoup de gens passaient de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et les gens voyaient des vies transformées. Le Galarénien, quand il était assis vêtu dans son bon sens, les gens du village ne l'ont pas reconnu. Il était dans les sépulcres, il faisait peur à tout le monde, il brisait les chaînes les plus fortes avec lesquelles on l'enchaînait, tellement il était violent et brutal, et il était dangereux. Mais quand Jésus est passé par là, la légion de démons qui l'habitait, elle est partie dans les pourceaux, et elle a été précipitée dans la mer. Et cet homme était assis vêtu, dans son bon sens. Vous vous rendez compte, il était nu, il vivait dans l'ombre de la mort, dans les sépulcres, c'est une horreur cela. Mais quand Jésus est passé par là, c'est un homme qui a retrouvé l'équilibre, et il voulait suivre Jésus, mais Jésus lui a dit, reste là, simplement tu vas témoigner de ce que je t'ai fait, mais reste là, ne me suis pas. La foi, donc, c'est un facteur incontournable qui permet à l'onction de Dieu d'agir. Et moi, je voudrais, Seigneur, vraiment, on a Jésus dans notre cœur. Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Mais ce que je voudrais dire ce matin, c'est que l'Esprit de Dieu qui est en nous va sortir de nous pour toucher des vies, pour toucher des situations, pour toucher les gens qui nous entourent et qui cherchent des solutions, peut-être dans l'occultisme ou dans un tas de choses, mais ces gens sont à la recherche, ils ont soif d'une transformation, d'un changement radical. Et nous, nous avons Jésus. Je veux dire, Seigneur, commence par ton peuple. Guéris au milieu de nous. Et ce n'est pas un reproche que je fais au Seigneur, c'est simplement, Seigneur, nous avons soif de voir ta gloire agir. Que ta gloire revienne dans l'Église, on le chante. Que ta gloire revienne, que ta gloire couvre ce pays de France qui en a tant besoin. Que ta gloire circule dans les nations et qu'elle couvre les nations comme l'eau couvre le fond des mers. Et dans ce temps, je suis persuadé que Dieu prépare des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants, puisque nous sommes au cœur d'un établissement scolaire, des enfants que rien ne pourra arrêter, parce qu'ils auront développé à tel point leur foi, au point qu'elle deviendra une seconde nature. Amen. Cette foi est appelée à devenir pour le juste un mode de vie. Et je voudrais que nous puissions dire Seigneur, et crier au Seigneur pour que notre foi devienne un mode de vie. Au nom de Jésus, Seigneur, change-nous. Seigneur, pardonne nos péchés. Tu es saint. On a chanté tout à l'heure, on a dit qu'on a prié le Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ton nom a été tellement sali. Ton nom a été tellement galvaudé. Ton nom a été tellement utilisé maladroitement, faussement, que ton nom a besoin d'être redoré. Et nous disons, Seigneur, que ton nom soit sanctifié parce que ton nom est saint. Tu es saint, ta sainteté est là. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire, diront les séraphins quand ils volaient l'un à l'autre. Seigneur, merci de placer cela sur nos cœurs, afin que nous puissions te prier, afin que la Shekinah de Dieu, la nuée de Dieu vienne, et que cette nuée remplisse cette maison de Dieu, mais qu'elle remplisse nos vies, qu'elle remplisse nos cœurs, qu'elle remplisse nos foyers. Seigneur, nous voulons voir un Jésus vivant agir, et nous voulons dire tous ensemble, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tout le peuple de Dieu dit, non, ça me fait du bien de vous entendre. Alors on peut appeler cela, si on comprend que notre être intérieur, notre esprit a un fonctionnement comme notre être extérieur, eh bien notre être intérieur se nourrit de quoi ? De la parole de Dieu. Et il a des sens qu'on peut développer. Lorsque je vous ai lu tout à l'heure ce que Dieu a ressenti en voyant l'esclavage dans lequel était plongé le peuple d'Israël, il a dit, j'ai vu. J'ai entendu et je suis descendu. Ça veut dire qu'il y a des sens que nous reconnaissons. J'ai vu, c'est la première chose. Et pour nous qui sommes là ce matin, on va parler de ces sens de la foi. On doit apprendre à regarder avec foi. Vous rappelez, Jésus, le Seigneur a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Nous sommes appelés à apprendre à regarder avec foi. Je répète, la foi... Et dans Hébreu, on le lit dans Hébreu 11, c'est que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia! On a parlé tout à l'heure du ciel qui rejoignait la terre. On l'a chanté, n'est-ce pas? Hein, on l'a chanté tout à l'heure. C'est pas pour rien qu'on l'a chanté ou qu'il a été préparé. Parce que le Seigneur savait qu'on en avait besoin ce matin. Et c'est vrai que la foi, c'est marcher sans la vie, la vue physique, mais avec une vue intérieure. La vue de la foi. Et selon où nous avons les yeux, ça nous coûtera la bénédiction. Vous rappelez lorsque Pierre était dans la barque avec les autres et qu'ils ont tous vu Jésus venir devant d'eux en pleine tempête. Ils ont cru que c'était un fantôme. Et Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui a dit un seul mot, viens. Et sur ce mot, Pierre est sorti de la barque et il est allé vers Jésus et il a marché sur l'eau. Extraordinaire, vous me direz, hein ? Oui, extraordinaire. Mais lorsqu'il a détourné ses yeux de Jésus pour les fixer sur les éléments déchaînés qui l'entouraient, il a pris peur et il a commencé à s'en aller en dessous de l'eau, à plonger dans l'eau, à descendre dans l'eau, parce que sa foi l'a lâché. Tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il avait une foi et il pouvait marcher sur les eaux, chose qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent. Par contre, la Bible nous parle d'un autre homme, elle nous parle d'un Abraham. Il est dit ceci dans Romains 4, 19, « Sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, imaginez un monsieur de 100 ans qui va être papa, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Ça vous dit quelque chose, ça ? Abraham n'avait humainement aucune chance d'avoir des enfants, mais il ne considéra pas les éléments contraires et décourageants. Il considéra une chose, la promesse de Dieu. Un point, c'est tout. Il considéra la promesse de Dieu. Dieu lui a dit, tu auras une descendance. Et il a davantage cru la parole de Dieu que regarder à son propre état de vieillard qui ne pouvait absolument rien faire de ce côté-là. Il y a un exemple aussi dans Marc que j'aime beaucoup, et là c'est l'exemple de Jésus. J'aime cette phrase qu'on va prononcer sur lui. Il est donc chez le chef de la synagogue, Jaïrus, et des gens lui disent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Moi, ça me parle, ça. Et ça me fait tellement de bien de voir que parfois, vous avez plein de gens qui vous découragent par un tas de choses en vous disant un certain nombre de choses qui concernent votre position. Mais là, il est dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, il dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Alors il va avec ses disciples, avec Pierre, Jacques et Jean, il entre dans la maison, il dit à tous ceux qui sont là, « Cette fille, elle n'est pas morte, elle dort. » Alors tout le monde se moque de Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait, les moqueurs ? Dehors. Il les met dehors, il rentre dans la maison avec ses trois disciples, et puis là, il prend la jeune fille par la main, et puis il dit une phrase particulière, la fille se lève et simplement, elle avait 12 ans et la Bible nous dit qu'elle a recouvré la santé à ce moment-là. Et pourtant, les gens se moquaient. On voit un autre récit dans Nombre 13 et 14, toujours les 12 espions qui reviennent et qui font un rapport parce qu'on les a envoyés explorer le pays dont l'Éternel avait parlé, un bon pays où coule le lait et le miel. Donc allez-y, dira Josué, allez dans ce pays, et puis vous reviendrez et vous ferez un rapport. Et donc, 10 vont revenir en fixant leurs yeux sur ce qui est négatif. Et ils ont communiqué au peuple quoi ? Ils ont communiqué la peur, la crainte, et l'oubli des promesses de Dieu en communiquant leur propre vision. Nous avons vu les géants. Nombre 13, verset 33. Nous avons vu les géants. Alors deux ont fixé leur regard sur le positif et sur les promesses de Dieu. Pourtant, tous ont vu les mêmes choses. Les 2 plus les 10 ont vu exactement les mêmes choses. Mais les 2 de parmi eux ont fixé leur regard sur les promesses de Dieu, et les 10, comme les 2, les 10 n'ont vu que du mauvais, les 2 n'ont vu que du bon. Waouh ! Les 10 se sont concentrés sur le mauvais, les 2 se sont concentrés sur le bon. La foi, ce n'est pas voir le mauvais, mais se concentrer sur le bon et sur Dieu lui-même. Et je voudrais ce matin qu'on se concentre sur ce que Dieu peut faire. Non, sur ce que Dieu veut faire. C'est sa volonté de nous bénir. C'est sa volonté de nous guérir. C'est sa volonté de nous transformer. C'est sa volonté de changer toutes choses. Les choses qui vous semblent comme des montagnes, c'est sa volonté d'abaisser les montagnes et de relever le défi avec nous. Et c'est vrai que Job, il avait fait un pacte aussi avec ses yeux. « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais jamais arrêté mes regards sur une vierge », dira-t-il. Il est question dans l'Écriture de faire un pacte avec nos yeux, mais de faire un pacte aussi avec notre bouche. Ça, c'est le premier point. Comment est-ce que nous voyons les choses, mes amis ? Quel est notre jumelle, notre focus? Comment voyons-nous les choses? Je voudrais dire que Dieu ne se repent pas de ce qu'il a dit. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors, voir, c'est une chose. Écouter, c'est le deuxième point. Écouter avec foi. On est appelé à apprendre de plus en plus à développer notre oui spirituel. Vous rappelez, Dieu, j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Écoutez avec foi. La Bible nous dit dans Romains 1, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient des paroles de Christ. » Moi, c'est un verset qui me... Chaque fois que je le lis, je suis stimulé par ce verset. Parce que quand je plonge mes regards dans la parole de Dieu, cette parole passe par mes yeux, mais elle descend dans mon cœur, et elle produit son effet dans mon cœur parce qu'elle est vivante. Ce que j'entends et ce que j'écoute plus précisément peut développer une foi positive ou négative selon la nature et la qualité de ce que j'entends. Une petite histoire simplement qui va vous faire sourire. Une sœur avait mal compris les paroles d'un chant. Et lorsque l'on chantait que Dieu est 3 fois saint, elle entendait que Dieu était 3 fois 5. 3 fois 5. Donc elle osa rien dire, et pendant des mois, chaque fois qu'on chantait ce chant, elle chantait « Tu es le Dieu 3 fois 5 ». Bon, un jour, elle finit par aller voir son pasteur et lui demander « Mais frère, pourquoi Dieu est-il 3 fois 5 ?» Bon, cet exemple est marrant. Mais on voit qu'une personne peut mal comprendre une chose et croire faussement pendant longtemps ce qu'elle a toujours cru. Et pour des sujets plus graves, des conséquences peuvent être désastreuses. La foi vient de ce que j'entends, et plus précisément, ce que je comprends dans ce que j'entends. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. On est affranchi par rapport à la connaissance que l'on a, mes amis. Oui ou non? Nos oreilles servent, excusez-moi, mais trop souvent de poubelles. Il faut les nettoyer régulièrement par quoi ? Par l'écoute de la parole de Dieu. Et il est d'ailleurs important de s'entourer de gens qui ont un langage ou qui ont un cœur édifiant au lieu de décourageant. Vous avez remarqué que quand vous avez des gens positifs, ça vous donne envie de continuer d'aller de l'avant. Par contre, quand vous êtes avec des gens décourageants, ça plombe l'atmosphère, vous n'avez qu'une envie, c'est de quitter ces lieux et d'aller faire autre chose. Oui ou non? Les atmosphères lourdes, vous savez, vous avez rencontré cela certainement. Et il est important de faire le tri même dans les prédicateurs que l'on écoute, dans les livres que l'on lit. On peut trouver aussi des choses tellement stupides dans Internet. Ça, moi, je le redis, franchement, il y a des moments, ça me hérisse les cheveux sur la tête. Et dans Nombre 13 et 14 encore, on y retourne, on voit que lorsque les 12 espions reviennent de leur visite sur Canaan, le peuple hébreu, écoutez bien, a préféré écouter 10 hommes au message négatif que 2 autres au message positif. C'est quand même, on dit toujours que c'est le plus grand nombre, la majorité qui a raison, mais là c'est pas le cas. Là il y avait la majorité qui n'avait absolument pas raison. Et le résultat a été le suivant. Ils ont erré pendant 40 ans dans le désert Et tous ceux qui étaient là, qui auraient été au bénéfice des promesses de Dieu, Dieu a attendu qu'ils soient morts pour faire entrer l'autre génération dans le pays qu'il avait promis leur donner. Et donc, selon ce que nous décidons d'écouter, nous pouvons errer longtemps dans notre vie, voire y laisser la vie. Donc, j'aimerais maintenant passer au troisième point. Il est question dans l'Écriture d'apprendre à parler avec foi. Je suis descendu pour le délivrer, ce peuple dira Dieu. Il a parlé avec foi. Parler avec foi dans 2 Corinthiens 4, 13. Comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Quelqu'un qui a cru doit apprendre à parler différemment. La foi s'exprime en mettant en avant au premier plan des choses qui correspondent à la volonté de Dieu, au lieu de leurs inconvénients et les œuvres de Dieu au lieu de celles du diable. Mettons en avant ce que Dieu a promis. Et moi, je crois que les promesses de Dieu sont en train de se réaliser. En tout cas, je lisais la semaine dernière que sur toutes les promesses que Dieu a faites au travers de ses prophètes de l'Ancien Testament, il y en a beaucoup qui sont déjà réalisées et il y en a peu qui ne sont pas réalisées encore, mais qui vont se réaliser dans les années et peut-être dans les dizaines d'années, dans les décennies qui viennent. Et je crois que la foi, elle s'exprime par rapport à notre cœur. L'incrédulité, c'est faire et dire le contraire de ce que Dieu dit. Les 10 espions ont communiqué la crainte à tout le peuple et ils mettaient en relief des paroles, des aspects négatifs de ce qu'ils ont vu. Et ils dirent à Moïse, d'abord, il commence bien, nous sommes allés dans ce pays-là et à la vérité, c'est un bon pays où coule le lait et le miel. Un point pour Dieu. Un point pour le Seigneur. Waouh ! Et puis, il bifurque rapidement sur le négatif. Et vous connaissez ce petit mot « mais ». Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées et très grandes, et nous y avons vu les enfants d'Anak. Ces fameux « mais ». Vous savez, quand vos enfants vous disent « oui, je vais faire cela, ce que tu me demandes, mais attendez-vous au pire. » Caleb essaya de faire taire le peuple, bien sûr, et il dit ceci, moi j'aime cette phrase, moi, elle est plantée en plein milieu de tout ce désordre, « emparons-nous de ce pays, nous y serons vainqueurs. » Ça fait du bien d'entendre cela. Non, pas vous? Moi, ça me stimule quand j'entends des gens, quand ils voient des désastres devant eux, mais qu'ils prononcent des paroles positives. Les gens sont en train de décrier ce qu'ils ont vu, et pourtant Josué et Caleb ont vu la même chose. Mais il dira, Josué, emparons-nous de ce pays, nous y serons vainqueurs. Mais là, mais les hommes qui étaient allés avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre son peuple, il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru, écoutez bien, pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Un peu comme moi. Et là, non seulement ils ont amené le peuple à se concentrer sur le négatif, mais ils ont commencé à mentir. Parce qu'ils ont ajouté, nous étions à leurs yeux comme aux nôtres, comme des sauterelles. Vous imaginez la taille d'un criquet par rapport à la taille d'un homme. C'est de l'exagération. Parce que si on voulait retranscrire cela sur le plan physique, un criquet par rapport à ta maison, ta maison elle serait combien de fois plus grande que le criquet que tu as dans la main. Ils ont commencé à mentir. Et ils ont commencé à délirer. Car pour que vous voyiez comme une sauterelle aux yeux d'un géant, il faudrait que celui-ci fasse plusieurs fois la maison dont tu parles. Et quand les gens commencent à médire sur quelqu'un, en général, les bruits font le tour du quartier et l'image et le problème deviennent de plus en plus laids, forcément. Alors celui qui parle négativement, il est pris dans son propre piège et il vient rapidement à mentir sans trop s'en rendre compte. Les deux espions vont, eux, commencer à donner des paroles d'encouragement, mais malheureusement, déjà, les 10 ont déjà tellement parlé que le peuple n'était même pas en mesure d'écouter les 2 qui étaient vraiment inspirés par Dieu. Attention, la foi n'est pas non plus une autosuggestion. La foi, ce n'est pas appeler les choses qui sont comme si elles n'étaient pas, mes amis. Ce n'est pas du déni. La foi ne nie pas la réalité des choses négatives, mais comme le fit Abraham, il ne considéra point, mais comme Jésus le fit devant Jaïrus et devant cette fille, sans tenir compte de ses paroles, il dira « ne crains pas, crois seulement ». La foi consiste à appeler les choses qui ne sont pas dans le physique comme si elles existaient, comme si elles étaient. Et la guérison, la prospérité, la délivrance de Christ dans nos vies ne sont pas des illusions, ce sont des réalités, mes amis. On les fait passer du monde spirituel dans le monde matériel par la foi. Et ainsi, ce que je veux dire ce matin, c'est que tout est accompli à la croix du calvaire. C'est la parole de Jésus. Tout est accompli. Jésus est monté au ciel. Mais dans les cieux, tout est décidé. La bénédiction de Dieu sur ta vie, elle est au ciel. Mais le Seigneur veut que le ciel touche la terre. J'ai été béni cette semaine en relisant le baptême de Jésus. La Bible nous dit que le Saint-Esprit l'a saisi et les cieux s'ouvrirent. Waouh ! Et l'Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Les cieux s'ouvrirent. Seigneur, que les cieux soient ouverts au-dessus de notre église Josué. Ils le sont déjà, mais qu'ils le soient de plus en plus, mes amis. Parce que toutes les richesses qui sont là-haut dans la gloire, nous voulons les voir descendre et nous voulons les voir travailler au milieu de nous et accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous prononçons le nom de Jésus-Christ, non pas en vain, mais avec foi et assurance, nous croyons que ce nom déplace les montagnes. Nous croyons que le nom de Jésus est suffisamment puissant pour faire reculer les puissances de l'ennemi. Le diable veut mentir et nous dire « Non, tu n'y arriveras jamais. Non, tu ne seras jamais guéri. Non, tu vas vivre toute ta vie avec ce problème et tu vas en mourir. » Mais ce Jésus que j'aime et que je sers et que vous aimez, que vous servez, nous dit autre chose. Il nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si notre cœur est rempli d'incrédulité, notre bouche va prononcer des choses qui vont aller dans le sens contraire de la foi. Mais si notre cœur est rempli des promesses de Dieu, si notre cœur est rempli de la parole de Dieu, si notre cœur contient cette parole et que nous faisons sortir cette parole par notre bouche en disant « Il est écrit !» par le nom de Jésus. Eh bien, ces choses vont arriver. On fait passer ces choses du monde spirituel dans le monde matériel par la foi. Et lorsque David s'avança au-delà de Goliath, un géant, il dit « L'Éternel te livrera entre mes mains, je te couperai la tête. » L'autre se moquait d'un petit garçon, d'un tout petit chétif, en disant « Mais tu viens avec moi, mais franchement. » Et là, David savait que ce Goliath avait insulté l'armée de l'Éternel. C'était insupportable pour lui. Et mes amis, nous sommes du côté du plus fort. David a appris que son Dieu pouvait le délivrer de la griffe de l'ours et de la gueule du lion. Et c'est dans le quotidien qu'il a appris à grandir. Mais quand il s'est retrouvé face à Goliath, on a voulu lui mettre une armure qui était bien trop lourde pour lui, bien trop encombrante pour lui, l'armure de Saül. Et il a dit « Non, j'en veux pas ». Mais il a fait ce qu'il savait faire. Il est allé au bord du torrent, il a pris 5 petits cailloux, et il a pris sa fronde qui était attachée à sa ceinture, il a mis son premier caillou dans la fronde, et il a commencé à affronter le géant au nom de l'Éternel. Au lieu d'écouter le peuple qui disait combien l'ennemi qui s'avançait jour et nuit, matin et soir, était redoutable, David écouta son indignation intérieure de ce que le nom de son Dieu avait été blasphémé. Et au lieu de regarder à la taille du géant, il regarde à la taille de son Dieu. Alléluia ! Notre Dieu est grand ! Il est puissant. Au lieu de parler le langage de la peur, il a parlé le langage de la victoire de l'Éternel. Et le résultat fut la victoire. Le résultat de la foi, correctement mise en action, c'est une seconde nature pour nous. C'est toujours la victoire. Et mes amis, on en parlait tout à l'heure un peu avec Luc, c'est qu'il y a des embûches, il y a des difficultés qui se dressent sur notre chemin. Et moi je dis, Seigneur, j'apprends à dire, Seigneur, merci pour les oppositions, pour les difficultés, pour les choses pénibles que nous traversons, parce que nous savons que nous sommes sur le chemin de la victoire. Si tu permets ces choses, c'est que tu veux nous travailler, c'est que tu veux nous modeler. Tout à l'heure, tu parlais de cette vision de l'affineur. Et moi, j'avais lu un texte sur, vous savez, celui qui... Oui, le fondeur, le fondeur. Et moi, j'avais lu un texte sur l'affineur. Vous savez, celui qui affine les diamants. Et on lui a posé une question, mais quand est-ce que vous vous arrêtez de frotter ce diamant? Il a répondu, c'est quand je vois ma propre image dans ce diamant, dans cette facette de diamant. C'est là que je m'arrête de continuer mon travail. Et mes amis, quand on va voir Jésus sur nos visages, alléluia! Et Jésus nous affine parce qu'il veut être vu par ceux qui ne le connaissent pas au travers de nos vies. Il veut que nous rayonnons de gloire. Il veut que nous soyons ses représentants physiques mais aussi spirituels sur cette terre. Mais Dieu veut nous entraîner plus loin. Et j'aimerais vous dire ce matin, cette année qui vient, faisons ce pari devant Dieu de commencer à prononcer chaque jour des paroles positives qui sont inspirées de la Bible, tirées de la parole de Dieu. Et dans les circonstances adverses que vous allez traverser, prononcez et dites ce que dit la Bible. Prononcez son message. Le diable ne veut surtout pas que vous fassiez cela. Mais commencez à faire cet exercice de prononcer la parole de Dieu dans toutes les circonstances que vous traversez. Que disent les circonstances? Elles vous disent ça, 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 ça. Ok, ça décourage parfois. Parfois ça fait pleurer. Mais que dit la Bible? Le Seigneur te dit... Tu seras la tête et non la queue. Je te bénirai. Quand bien même une maman abandonnerait son enfant, moi je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi. Il y a des promesses dans la parole de Dieu. Et ces promesses, elles sont là pour nous encourager, pour fortifier notre foi et pour dire, on va serrer les dents, mais on va continuer à aller de l'avant parce que nous allons avoir la victoire au nom de l'Éternel des armées. Et ce matin, je voudrais dire que celui en qui je crois, il est le plus que vainqueur. Il n'est pas vainqueur, il est plus que vainqueur. Et il veut faire de nous des plus que vainqueurs. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la peine, le péril, l'épée, etc. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car dans toutes ces choses, eh bien, nous sommes... plus que vainqueur. Merci Seigneur parce que tu veux nous relever la tête ce matin. Tu veux enrichir nos cœurs de ta présence. Tu veux que la confiance en toi soit renforcée. Et Seigneur, ce matin, je suis venu pour te rendre gloire et pour dire tu es le plus beau des fils de l'homme. Que notre bouche soit comme la plume d'un habile écrivain. Que nous puissions dire les bontés, les merveilles de Dieu. Que nous puissions nous émerveiller de son éclat, de sa beauté. Il est présent au milieu de nous, mais il est en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, mes amis. Alléluia. On n'a plus besoin d'aller dans un lieu pour aller le rencontrer. Il est en nous, il vit en nous, et on n'a pas besoin d'aller le chercher. Il est constamment avec nous. Oh, gloire à Dieu. Jésus est présent au milieu de nous ce matin. Alors, pour conclure, voici celui sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et que Dieu puisse vous faire utiliser vos yeux, votre bouche, pour entrer en action. Et vous serez des plus que vainqueurs. Amen. Amen.